Bonjour à tous et bienvenue dans les projets du web. Les projets du web, c'est le podcast qui vous parle des projets qu'on peut trouver sur internet. Et j'ai en ma compagnie toujours Nicolas. Salut Nico.
Ouais, c'est la folie, tout le monde acclame. Bonsoir, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va bien. Et après un épisode 4 avec les copains de Fatfish Animation qui d'ailleurs au passage ont réussi leurs 4 campagnes de crowdfunding sur Ulule, on va les faire parce qu'ils en avaient 4 en même temps, donc il y en avait 4 à gérer de front, donc bon, ils ont réussi au dernier moment à tout financer. Non, je ne pense pas, mais bon. On va aller faire un tour du côté du jeu vidéo indépendant avec un petit studio qui s'appelle Aurora Studio. Bonjour messieurs.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir.
Que nos messieurs ce soir.
Donc ça va être difficile de gérer. Et puis vous êtes 4 derrière votre PC, vous êtes même pas autour du même micro. vous allez vous couper la parole, c'est pas grave. Et donc, on a de Aurora Studio, on a aujourd'hui David, qui est développeur.
Oui, tout à fait.
C'est toi, donc. Tu es un membre originel de Aurora Studio, ou pas du tout?
Moi, je suis plutôt celui qui est arrivé, on va dire, en avant-dernier. Parce que les membres originels, enfin, ça va plutôt être Dams, Damien, donc et Charles, et un troisième qui n'est pas là, mais qui aurait parlé avec son grand accent suisse.
D'accord, de toute façon, après, on passera un petit peu plus de temps sur chacun de vous et sur vos postes dans Aurora Studio. Donc, du coup, on va passer à Charles.
Oui.
À Charles, donc, toi, tu es un membre depuis le début.
Exactement.
C'est ça. Et tu es graphiste. C'est ça.
Voilà.
Après ça, on a Damien, qui, lui, est game designer et qui est... Bon, je l'ai appris ce soir, acteur dans une web-série qui s'appelle Cool and the Geek. C'est ça?
C'est ça, effectivement. oui, tout à fait. Game designer et puis, effectivement, un membre fondateur aussi d'Aurora Studio, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais voilà.
Non, mais il faut bien que ça parte de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on va peut-être refaire l'historique d'Aurora Studio quand on sera passé un peu par tout le monde. Et donc, on va finir par Vincent et après, on va vraiment parler d'Aurora Studio. Hein. Donc Vincent, tu es graphiste.
Graphiste, formation d'animateur à la base, mais comme Charles sur Ilios, je fais aussi du graphisme en plus de l'animation.
D'accord. Et donc, je sais pas qui veut prendre la parole pour présenter un peu Aurora Studio, de d'où ça vient, de
comment est-ce Damien,
que vous avez...
hein.
Damien fera ça très bien. C'est son job.
Il a l'habitude.
Bon,
oui, c'est le commercial du groupe.
C'est une relation publique, alors.
Il pas topé.
Bon, je m'y colle. Donc Aurora Studio, et bien maintenant, ça fait de nombreuses années que cette aventure a commencé, depuis maintenant entre 2002 et 2003 à peu près. Ça a commencé en fait autour d'un premier projet qui se nomme Saint Seiya RPG, tout sobrement. On s'est rencontrés en fait en école de dessin avec donc Charles et Stefano, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous écoutera, je pense, avec beaucoup d'assiduité. On s'est rapproché comme ça et on a développé en fait un RPG sur cette licence de Saint Seiya, parce qu'il n'y avait jamais rien qui nous plaisait comme jeu autour de cette licence phare en fait. Et puis, on a fait notre petit bonhomme de chemin là-dessus. On a développé pas mal de choses. On a fait des salons où on a présenté ce jeu. Et puis, arrivé ce qui arriva, c'est que les détenteurs des licences, entre autres, ont fait « Mais qu'est-ce que vous faites, les gars, là ?» Et puis, bon, ça s'est un peu arrêté d'une certaine façon, brutalement. Et depuis ce moment-là, on a essayé de trouver en fait, des solutions pour pouvoir faire nos propres jeux avec nos propres licences sans être embêtés, en fait, par... par des détenteurs. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que est né différents projets, dont Ilios, que vous pouvez voir aujourd'hui, enfin que vous avez pu tester du moins, Ostenfest.
Ostenfest. Ouais, parce que pour la petite histoire, on était avec Péremptoire et d'autres Ostenfest, et on s'est arrêté sur votre stand qui était dans le couloir des indés, et c'est vrai qu'on est resté un peu scotché sur le graphisme de votre jeu, et on a fait une petite partie c'est plutôt une démo technique que vous présentiez. On pouvait jouer, il y avait juste un petit niveau.
Une démo d'ambiance même, on pourrait dire.
Ouais. c'est vrai qu'on accroche, on a assez vite accroché. Moi, ça m'a fait penser à Guacamelee dans le gameplay. Alors, je sais pas si
d'accord.
C'était après c'est peut-être le truc 2D machin. Enfin.
Non, mais moi aussi, donc c'est normal. Je confirme.
Bon, on pourra parler des inspirations notamment, mais.
Oui, on en reparlera de l'inspiration, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a tout de suite accroché, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant de vous avoir, parce que dans les discussions, vous nous aviez dit que vous pensiez faire une petite campagne de crowdfunding aussi, un de ces quatre. Pareil, ça sera. On va traiter ça plus tard. Vous nous en direz plus si vous avez avancé sur le projet.
Question rapide sur Saint Seiya, en fait, sur le jeu Saint Seiya.
Je vous l'avais dit que monsieur allez vous poser des questions sur Saint Seiya.
Il en parle, je vais pas le louper. Attends, Saint Seiya quand même. Non, je voulais simplement savoir deux petites choses en fait. Déjà, pourquoi est-ce que une fois qu'on vous a dit non, vous avez pas les droits, pourquoi simplement l'avoir abandonné? C'était trop de travail de le rebrander, je vais dire, avec une autre, soit une autre licence, soit une licence propre, ou de virer un peu les mentions. Sur SNCA, vous pouvez pas simplement servir de la base, je vais dire, et modifier un petit peu l'histoire et le contenu.
Alors, il y a eu cette idée à un moment. Vas-y Charles, vas-y.
C'est délicat. Bon, on va se compléter Damien et moi dans la réponse. Quand on a rencontré Damien à Nantes en 2002, Damien était déjà porteur de beaucoup d'idées sur le concept, et tout le travail qui avait été fait était vraiment très spécifique à l'univers de Saint Seiya. C'était une approche du RPG, du JRPG à l'époque, mais en 2D. Et c'est vrai que il y a eu un cafouillage avec les ayants droit, et encore que on n'est même pas sûr qu'on ait eu en face de nous les véritables ayants droit, parce que Saint Seiya est une licence, une propriété intellectuelle qui est dispersée dans une nébuleuse de licences. Vous avez une exploitation papier comics, vous avez manga, vous avez une exploitation télévisuelle, vous avez une exploitation pour les jeux, pour les figurines, pour tout un tas de trucs. Finalement, le fin mot de cette histoire-là, c'est que on s'est pas adressé aux bonnes personnes.
Je suis comme vous, quoi. Excusez-moi, juste je rêverais d'avoir un jeu Saint Seiya. J'en rêverais, quoi. Je suis comme vous, j'ai aucune licence, aucun jeu de licence qui me plaît vraiment à fond et qui me fait envie. Donc le vôtre aurait été l'alternative idéale, c'est pour ça que je pose la question. Mais en dehors de ça, on peut le trouver quelque part quand même, il y a des liens un petit peu qu'on peut se passer sous le coude.
Non.
Mais si, sur le bien tenté. Sur Kickstarter bientôt, tu sais, dans les rétributions, un truc caché, non.
Ah si, c'est un bonus sur le Kickstarter.
Avec le Konami Code.
Le Konami Code, c'est ça. Sinon, pour répondre à la question aussi par rapport à la création, vraiment à continuer le travail là-dessus, faut savoir que Aurora Studio, là, tel que c'est aujourd'hui, c'est une équipe, mais une équipe de gens qui font ça en plus de leur travail, quoi.
Donc, tu réponds à une question future que j'allais poser.
Voilà. Et donc, du coup, ça prend énormément de temps de développer un jeu vidéo. C'est pas qu'on a abandonné, hein, du tout, Saint Seiya, au contraire. Mais que c'est plus un objectif futur. Enfin, en tout cas, je demanderai à Damien de revenir là-dessus. Mais pour moi, en tout cas, ce que j'en ressens, c'est que c'est plus un objectif futur. Et que Ilios va d'abord passer. Que, on n'oublie pas Saint Seiya RPG. Que on pourra montrer quelques trucs qu'on a déjà continué à faire, mais qu'on va voir ça pas tout de suite.
Ouais, j'imagine bien, ouais. Mais bon, j'espère un jour, peut-être en licence, un jeu gratuit ou un jeu type amateur, comme les Mugen, il fut un temps, ou les RPG Maker qu'on faisait avec les licences Zelda.
Comme le dit, on ne peut pas être plus clair, on souhaiterait, enfin, après voilà, c'est des décisions qui ont été dures à l'époque, on a décidé aussi de mettre ça en suspens, parce que comme le disait très bien Charles, on n'a pas forcément eu les bonnes interlocuteurs. Nous, pour l'époque, pour être complètement transparent, on a eu la Toei et Bandai, avant qu'ils deviennent Bandai Namco, quoi. Et en fait, comme le disait très bien Charles, en fait, il y a énormément de licences, et notamment Bandai avait le droit à une licence d'exploitation en fait pour une durée limitée sur leur jeu sur PlayStation 2 en fait. Et donc c'est quelque chose qui restait un peu en suspens, et on espère un jour pouvoir le reprendre clairement, parce que c'est pas le premier témoignage qu'on a, comme ce que tu nous dis, de personnes qui auraient voulu voir notre vision en fait de Saint Seiya, sachant qu'une chose quand même qui est très importante, c'est qu'on a voulu nous développer un RPG autour du manga papier et pas forcément de la série animée. Donc c'est vraiment le scénar du manga papier avec l'esthétisme et la charte, la direction artistique en fait de Shingo Araki et de Amano, quoi. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà, c'était vraiment ça l'objectif.
À l'époque, on ne travaillait pas à ce moment-là, on était étudiants, et c'est vrai qu'on a l'essentiel de ce qui est visible sur Saint Seiya aujourd'hui. Ça a été fait entre 2002 et 2007. Les dernières choses qui ont été faites, ouais, c'était le trailer pour Bandai Namco. Les derniers travaux étaient faits de 2007, et ouais, en effet, on a cessé la production parce que c'était assez conséquent en termes d'investissement. Ouais, et comme il n'y avait pas de suite,
continuer à travailler pour se dire, on va se le faire interdire, on va se prendre quelque chose dans la gueule, des avocats. C'est vrai que ça peut.
Non, au pire des cas, ils nous auraient simplement tapé sur les doigts et ça serait arrêté comme ça. Hein.
Ouais.
C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de projets, notamment des projets qui ont touché à Dragon Ball Z ou autres. Ils se font taper un coup sur les doigts et puis ça s'arrête comme ça. Hein.
Oui, mais ça veut dire que voilà. Autant pas mettre des ressources et du temps de développement sur un projet qui potentiellement a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et se dire on est peut-être en train de se faire ça pour l'arrêter dans un an, deux ans, surtout si vous travaillez sur le jeu en dehors de votre vie professionnelle, quoi. Oui.
D'où l'idée, et la transition sera parfaite pour parler de Ilios, hein, car c'est après cette aventure-là que nous avons décidé tous ensemble de créer en fait une IP, et c'est comme ça qu'est né Ilios il y a de nombreuses années maintenant, avant d'avoir la forme que vous avez vue au Stunfest.
Vous avez bien fait quand même, hein. J'ai eu l'occasion d'essayer un petit peu aujourd'hui.
tu as essayé, bien.
J'ai pas eu beaucoup de temps, je l'ai reçu un peu tard pour pouvoir dire de vraiment essayer à fond, mais j'ai essayé sur le PC du travail, oui.
Bah, bravo.
bravo.
Donc on va passer sur Ilios quand même, parce que c'est le sujet central de ce podcast. Et on va vous laisser expliquer un peu le thème du jeu, et puis essayer de décrire un peu comment ça vous est venu déjà de faire un jeu sur ce monde-là, parce que c'est assez spécifique, hein, quand même. Je sais pas qui veut prendre la parole. Personne, d'accord.
on change, je passe la parole à quelqu'un.
Mais non, mais c'est toi qui as eu l'idée. Donc, vas-y, merde, tu fais chier.
Non, bah alors,
tu le
je
fais
repars.
Tout le temps, bon. Vas-y. Mais bon. Je crois qu'on peut citer une anecdote, Damien, parce que ça.
Bon,
tout est parti d'une retrouvaille
vous
en septembre 2007.
Les copains.
Vas-y, ouais. C'est quoi cette anecdote là? Je connais pas là. Attends. Écoute, parce que l'après, parce qu'on peut parler de la première version, enfin les premières idées d'Ilios, qui était un shoot vertical, avant de connaître la forme que vous avez vue au Stunfest, qui est un jeu d'action aventure en 2D, scrolling horizontal plutôt. Il y a eu un moment donné où l'équipe après Saint Seiya s'est retrouvée et s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire maintenant
avec notre savoir-faire et nos idées propres pour se démarquer de l'IP Saint Seiya. Et il y a eu un tour de table et effectivement est sorti cet univers grec mythologique steampunk, parce qu'on voulait rester aussi dans les traces de ce qui nous avait fait connaître à l'époque Saint Seiya, donc une mythologie grecque. Et donc est arrivé ce projet de shoot vertical. Et c'est, on va dire, les premières pierres fondatrices de Dilios, quoi. Donc si tu veux continuer l'histoire, Damien.
Oui, alors je vais enchaîner sur un autre point important. Lorsqu'on avait fait ce tour de table à l'époque, on avait commencé à analyser le marché et savoir quel était le type de jeu qui pourrait marcher, sachant qu'on s'était fixé un objectif de faire un jeu en très peu de temps. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait donc le long boulet Saint Seiya qui traînait derrière nous, et on avait vraiment l'envie de sortir un jeu en quelques mois. Et donc, après ce tour de table, on s'est dit, mais qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui peut être rapide à faire ? Et parmi nous, on est pas mal, dont moi, être fan de Danmaku et de Shoot'em Up, hein, et on s'est dit, mais ce serait vraiment intéressant, parce qu'en termes de développement, ça prendrait moins de temps de faire un shoot que, effectivement, de faire un RPG, très clairement. Et c'était cette époque où les shoots, notamment portés par Cave, avaient vraiment le vent en poupe, hein, et étaient vraiment un style de jeu ultra apprécié, qui est toujours apprécié au jour d'aujourd'hui, mais qui a connu vraiment, qui est plus dans un creux quand même que dans les années 2008-2009. Et donc c'est comme ça qu'est né en fait Ilios. La mythologie grecque, pour une raison aussi très simple, c'est qu'on voulait pas trop sortir de Saint Seiya pour pouvoir avoir un lien en fait évident entre, mais pourquoi il passe d'un univers de Saint Seiya RPG, qu'est-ce qui se passe, à un autre projet. On voulait garder un lien avec la mythologie pour plusieurs raisons, donc celui-ci et puis l'autre qui est qu'on adore la mythologie grecque, tout simplement, que c'est ultra, ça donne énormément de motivation, beaucoup d'idées, et puis c'est quelque chose où on peut les piocher, vraiment de super histoires, de super personnages, c'est ultra épique. Bref, c'était vraiment une configuration idéal d'avoir un shoot, un univers mythologie grecque, et à partir de là a commencé à naître les idées un peu steampunk, un peu métallique, un peu stargateien, et qui sont venus se raccrocher en fait à ce thème qui est la mythologie grecque, et pouf, ça donnait Ilios.
J'aime bien tous les mots que j'entends là, Stargate, mythologie grecque, ça c'est
je suis quand même resté bloqué sur mythologie grecque, steampunk.
Ouais, ça fait
C'est un truc qu'on n'entend pas souvent.
Et pourquoi Ilios ? Pourquoi ce nom ?
Alors Ilios, c'est pas moi qui ai choisi le nom, je crois que c'est toi, Damien, qui a trouvé ce nom-là.
ça fait un peu Ilios, celui qui veut pas avouer que « Ouais, mais non, ça me plaît pas trop. »
Ah non,
c'est,
y a pas.
C'est parce que c'est un défaut, c'est le nom grec pour 3.
Oui, ouais, ouais.
Voilà. Et que,
ouais, le nom en grec ancien.
Voilà. Et que tout est issu de la ville de Troie et de la famille royale de Troie dans l'histoire d'Ilios. Donc c'est vrai que c'est assez logique de ce point de vue-là.
Exactement.
Prenez des choses.
Et c'est un nom aussi, ça peut paraître con, mais c'est un nom qui est court, qui est très bien. C'est, voilà, ça peut, c'est un nom qui peut rester.
C'est facile à retenir, ouais.
Et puis qu'on a un grand malade de l'histoire et de la mythologie dans l'équipe. Donc il y a Stefano qui n'est pas là, mais qui quand il voit un personnage blond va nous dire « Ouh là là, blond, c'est pas possible, hein, en Grèce ils sont pas blonds, hein. »
Et le pire c'est qu'il écrit et il parle grec, quoi, ancien.
On comprend rien à ce qu'il fait, je comprends
oui,
rien.
Grec parle, ouais, Steph parle en grec ancien, il parle grec ancien, c'est très compliqué dans l'équipe. Et donc pour continuer la petite histoire, à partir du shoot en fait, quelques mois sont passés, on n'a pas réussi à maintenir l'objectif qu'on s'était fixé pour plusieurs raisons, qui étaient notamment d'ordre technique, et donc ça a dissolu un petit peu l'équipe à cette époque-là, car il y avait la réalité financière derrière qui était il faut trouver de quoi mettre dans son assiette, et les cailloux ça va pas encore nourrir, malheureusement, on y viendra peut-être. Et donc on s'est un peu splitté d'une certaine façon, en gardant toujours plein de projets en tête, en continuant de développer en fait différentes idées, parce qu'il n'y avait pas que Helios dans la corbeille à idées. Et en fait, le temps malheureusement est passé, et on s'est retrouvé en fait il y a quelques temps, et on est reparti en fait sur une seconde version d'Helios qui était devenue en fait un run and gun. Donc, qui n'était pas encore la forme que vous avez vue au Stunfest.
Ah ouais, multiple version. Hein.
Ouais, et en fait, qui était vraiment plutôt parti dans une lignée très contrat. Hein, c'était vraiment contrat Metal Slug et puis Gunstar Heroes, donc les jeux chez Trigger, qui sont des jeux d'action assez terribles. Et donc, Charles avait commencé à pas mal travailler sur la charte graphique du personnage, etc. Et voilà, ça s'est rearrêté par une raison encore technique, car on avait vraiment beaucoup avancé sur le scénar. C'est l'époque où on a le plus avancé en fait quasiment sur le scénar, sur pas mal d'éléments qui ont été mis en place sur le personnage au niveau de son gameplay, car le run and gun se rapproche d'un coup beaucoup plus du jeu d'action d'aventure. Et donc ça a été remis en suspens, et on a repris une nouvelle fois les rênes du projet, parce qu'on pouvait pas laisser ça mourir bêtement dans un coin au fond d'un tiroir, ça aurait été tellement dommage. Et nous avons donc ressorti tout ça, et lorsque notamment on a rencontré David l'a regardé, et puis il va pouvoir nous dire sa réaction en live, mais il pouvait dire mais on peut pas laisser tout ça dans des tiroirs,
hein,
c'est pas possible.
Mais quoi, mais oui, vous êtes fous, vous. Oui, mais le truc, c'est que, en fait, Damien et moi, on travaille dans la même boîte. Bon. Enfin, c'est surtout, moi, j'ai fait rentrer Damien dans la boîte où on travaille actuellement. Et je les voyais bosser le midi, parce que j'ai aussi fait rentrer Charles, un petit peu, hein, temporairement.
Ah, bravo la coopération.
Oui, moi, je fais rentrer. Allez, viens là. c'est ça, j'ai touché.
Petit.
J'ai touché, hein. Et non, pas tellement, mais bon. Je les voyais bosser le midi tous les deux, là, et puis ils utilisaient la synthique du boulot. Je me dis, c'est quoi ce bordel?
Qu'est-ce qu'ils font les deux, là?
Bon, qu'est-ce qu'ils font les deux? Putain, ça a l'air chouette ce que vous faites, dis donc. Moi, ça fait 12 ans que j'ai envie de faire des jeux vidéo, et vous avez l'air de vouloir faire un jeu vidéo, là. Et si on faisait un truc ensemble? Bon, bah d'accord. C'est quoi? Fais voir le scénario. Wouah! La vache! C'est épique, hein. Je vais rien dire de plus sur le scénar, non, hein, pas tout de suite. J'ai vu un peu ce qu'il faisait, et puis il dit, mais moi, enfin, ok, on a commencé à bosser ensemble, ça fait combien de temps, là? Un an et demi, deux ans?
Un an et demi.
Un an et demi,
ouais. Un an et demi, deux ans.
Automne 2012, à peu près.
Ouais, automne 2012. Ouais.
Donc, sur cette nouvelle version de Helios.
En fait, voilà, c'était une équipe qui était donc sans programmeur à l'époque, et donc moi je suis arrivé là-dedans, et puis je suis le seul programmeur actuellement, mais bon, ça leur a permis de voir un peu ce qu'on pouvait faire en plateforme assez rapidement, puis on est parti sur un jeu d'action plateforme. Moi je suis tombé in love avec le projet, quoi, donc j'y mets mon temps là, donc c'est à dire que tout à l'heure quand on aura fini je vais y retourner. Et puis on a relancé le projet, et depuis on commence à arriver d'autres personnes, notamment Vincent qui nous suit maintenant et qui a beaucoup contribué aussi au projet.
Ouais, moi je suis arrivé beaucoup, un peu plus tard encore, quoi. Mais je me suis fait avoir comme tout le monde, j'ai vu Senseiya tourner, et j'ai fait, voilà, c'est super, il faut que je bosse avec eux.
Pas le seul, ça va.
Ouais, parce qu'au final...
Moi, je les avais rencontrés à Nantes, au salon Art to Play, où j'étais venu juste en tant qu'illustrateur, et à force de discuter, parce qu'ils avaient le stand à côté, où ils commençaient à présenter leur boulot, et on a sympathisé. À la base, j'étais censé être... Damien m'a proposé, si je me rappelle bien, d'être juste consultant et qu'on discute, d'avoir un avis extérieur sur Helios. Et puis finalement, on est arrivé, si je me rappelle bien, rapidement à ce que je fasse quelques concepts graphiques. Et une semaine après, tu m'as envoyé un contrat avec une clause de confidentialité. j'ai trouvé ça. En fait, ça m'a plutôt rassuré. Je me suis dit, ils ont une super idée. Ils sont sympas déjà. Et ils savent où ils vont et c'est sérieux, quoi. Et tout ce qu'ils vous ont raconté avant, qui, moi, encore une fois, je le réentends encore une fois, je suis pas avec l'équipe depuis le début, mais ces projets qu'ils ont fait où ils ont parfois eu de la malchance et qui sont pas terminés, pour moi, c'était plutôt un gage de qualité. Je me suis dit, voilà, c'est des gens qui, comme tous les gens qui ont réussi, ont commencé par se vautrer, mais qui se sont relevés. Et aujourd'hui, je me dis, c'est le moment et ils ont le projet et on a une super équipe. Et c'est pour ça que je suis aussi investi à fond avec eux.
Ok. L'histoire.
Et au final, vous êtes
l'histoire.
Vous êtes 8 dans l'équipe. En tout cas, c'est ce qui me montrait sur
le. Oui, site. Oui, parce qu'il y a en plus il y a le donc le compositeur qui fait le son, la musique. On est aidé par un juriste, ce qui est intéressant aussi.
Vous avez appris du passé. Et,
c'est ça, quand t'as un trou de balle comme ça, enfin, tu t'en souviens. Donc, tu fais gaffe, t'es un juriste. Voilà. ensuite, il y a
on a aussi par la dure, en fait.
Il y a aussi pas mal d'autres graphistes aussi. Quelqu'un qui fait le site internet.
Oui,
aussi,
en ce moment, en fait, on... Ouais. Et puis ben du coup on a aussi on rencontre beaucoup de personnes lors des salons notamment et ça permet de créer des affinités et il y a aussi des personnes qui sont intéressées par le projet qui aimeraient y contribuer et ça tombe bien parce qu'on est une équipe assez réduite et par rapport à la qualité du jeu qu'on souhaite avoir ça demande énormément de boulot graphique.
Mmh. Oui, surtout donc, des graphistes. Ouais.
Donc voilà.
D'accord. Mmh. Et du coup
moi j'ai une question.
Vas-y.
Non, je
voulais savoir si du coup le Stunfest vous avait apporté des nouveaux dans l'équipe ou des potentiels nouveaux dans l'équipe ou est-ce que ça vous a surtout servi pour faire connaître votre jeu auprès du public ou est-ce que vous avez des contacts maintenant pour des gens qui viennent bosser avec vous et vous aider sur le projet?
Je crois que c'était surtout les conventions précédentes où vous avez eu des contacts. Enfin, les contacts sont différents à chaque convention. Hein. Ça peut être un coup, ça peut être du contact médiatique, journalistique, ça peut être consultant, ça peut être effectivement graphiste. Ça s'est réparti selon les conventions, mais Stunfest, ce que j'ai pu ressentir, c'était surtout un soutien médiatique, un relais en tout cas médiatique.
Ok.
Vincent, si tu veux faire ton ressenti aussi sur le Stunfest.
Oui, moi ce que j'ai senti au niveau du Stunfest, c'est qu'il y avait plus au niveau des indépendants, tout le monde était là pour présenter des projets sur lesquels ils bossent d'arrache-pied. On sait ce que c'est, enfin on peut imaginer la masse de boulot que c'est d'être indépendant. Et donc c'est plus au salon précédent à Montreux, qui était un peu plus japanime, pop, où on a eu des petits jeunes qui sont venus nous montrer leur portfolio. Et dont certains d'ailleurs avec qui on est encore en discussion aujourd'hui pour éventuellement les intégrer dans l'équipe.
Ok.
Ouais, des pas mauvais qui se disent non mais c'est complètement dingue ces histoires. On a des gens, on les croise, ils nous disent ah c'est génial ce que vous faites, on l'utilise à l'école des gobelins pour voir comment vous avez fait l'animation. Quoi ça? Qu'est-ce que tu dis là? Tu peux répéter parce que j'ai halluciné. Non mais c'est complètement fou. Et donc c'est tous ces salons là, c'est génial parce qu'on rencontre plein de gens puis t'as tout plein de gens qui viennent après nous suivre et les réseaux sociaux même vous hein après tout tout ça augmente la dynamique, la communication autour de ce projet, je trouve ça génial.
Avec nous, ça va faire des millions de fans.
Ah, écoute,
certainement.
On n'en reviendra pas. Vous espérez.
Puis c'est le seul moment aussi, on a des retours.
Mais oui, c'est ça qui...
Les yeux dans les yeux avec les gens, quoi. Voilà. Il y a des mecs qui nous disent on veut le t-shirt, on veut jouer, on veut rejouer, ils repassent 10 fois dans la matinée. Et ça, de un, bien
c'est
sûr.
C'est quoi l'histoire?
C'est flatteur, mais surtout, c'est un moteur. Qui est plus qu'un luxe, c'est un besoin, quoi, parce qu'on travaille tous séparément. Moi, par exemple, je suis à Paris et on a beau avoir plein d'outils aujourd'hui, comme Skype et compagnie, c'est des fois, comme souvent dans ces boulots, on est le nez devant son ordi, on se dit, on sait pas où on va et on a besoin vraiment de ces conventions pour se redonner du fioul jusqu'à la convention suivante.
Vous avez aussi des gens un peu marrants, comme vous avez mis sur votre page Facebook, avec le papa sympa, le casse-couille, le développeur frustré.
Oui.
Je sais pas qui a fait cette petite BD, mais
c'est moi
j'ai
qui
trouvé
ai fait
très
ça.
Réussi.
J'ai fait ça dans la foulée, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu aussi, j'aime beaucoup le dessin de presse. Et je croquais un peu les gens qui venaient sur le salon et j'ai décidé, ils ont accepté, mes sympathiques collègues, que je fasse un petit journal de bord comme ça sur l'équipe. Et je pense que ce sera plus sympa que de taper des lignes de texte. Et et puis pour le coup, ça a touché une niche, quoi. Je me doutais pas que, parce qu'on a eu, je crois que c'est le sujet sur lequel on a eu le plus de vues sur Facebook, parce que ça a touché, ben, évidemment, tous les développeurs indépendants qui se sont retrouvés dedans, quoi. Donc c'était très drôle à faire et je suis super content que ça ait marché aussi bien, quoi.
T'avais pensé à faire de la BD, juste ouais. rapide.
Alors moi, si la question est posée à moi, en tout cas par rapport à ces dessins, la BD c'est très bien, mais j'ai encore lu des articles aujourd'hui de mecs qui arrêtent leur carrière après 30 ans de... C'est trop salvadal au jour d'aujourd'hui, c'est pas viable. Je commence à penser à une vie de famille, ce genre de choses, je me dis je veux pas être auteur de BD malheureusement, quoi.
Non, honnêtement, le truc sur la star du web, j'ai beaucoup ri. justement, tu parles de père de famille et autres. On a compris, enfin, je pense que le public a compris que c'était pas votre activité principale, pour le moment en tout cas. Quel est votre but en fait avec Aurora Studio? Vous essayez d'être que le jeu soit un vrai succès, que vous puissiez après en vivre et faire uniquement des jeux, ou ça reste entre guillemets un passe-temps? Vous espérez pouvoir le vendre à un gros studio, que sais-je?
Ah, ça c'est pour moi ça, non?
Alors, le commercial.
On va pouvoir le faire ensemble si tu veux, David. Il y a plusieurs objectifs en fait.
Vas-y.
Il y a plusieurs objectifs là-dessus. Le premier objectif effectivement est de réussir à faire ce que l'on souhaite, c'est-à-dire faire des jeux. Maintenant, après, il y a aussi une logique pour pouvoir sortir des jeux, d'être une structure pour ça, une structure avec un cap clair et précis. Nous, dans notre cas, Aurora Studio, on a toujours eu cette volonté de raconter des histoires, d'avoir vraiment cette volonté d'avoir des histoires qui soient racontées, quel que soit le type de jeu en fait qui est réalisé. On raconte pas forcément qu'une histoire avec un RPG. On peut raconter aussi une histoire avec un jeu d'action-aventure, avec un shoot 'em up, avec un puzzle. Que sais-je. Et nous, c'est vraiment un peu le créneau qu'on a choisi. Après, pour être plus clair, on ne sait pas forcément quelle sera la structure qui permettra de faire ça, notamment au niveau des contacts, si on veut passer par un éditeur, si on veut passer par un constructeur, ce sont encore des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir. Et l'envie, en tout cas, est tout de même d'avoir notre propre studio pour être libre de créer nos propres jeux, évidemment, oui.
Donc là, pour ça, pour l'instant, ce qu'on fait, on se débrouille un peu avec ce qu'on peut. Et ce qu'on fait, c'est qu'on partage beaucoup notre expérience. Alors, c'est notamment ce qu'on a fait dans les dernières conventions. On y va avec Unity, parce qu'on travaille avec Unity, avec notre tablette graphique, et on montre comment on travaille, comment tout ça évolue en temps réel. Et on voilà, nous, ce qu'on veut, c'est partager notre avancée, etc. Et puis, évidemment, on a... comme tout le monde y pense aujourd'hui, chez les indépendants, penser au financement participatif, quoi. Donc, à Kickstarter, parce que bon, le reste, je veux pas dire, mais au niveau du jeu vidéo, c'est pas gagné, quoi. Alors forcément...
si t'es un gamer, tu vas sur Kickstarter.
C'est ça. Ça paraît simple comme ça. On se dit bon, Kickstarter, super, génial, on va y aller. Et puis tu commences à regarder, tu fais mais waouh, c'est compliqué, il faut une boîte aux États-Unis ou au Canada ou en Angleterre. Mais comment on va faire tout ça? Bon, on va peut-être y aller tout doux là. Et y aller lentement mais sûrement. Mais c'est dans les tuyaux actuellement à réfléchir à tout ça et notamment à prendre des contacts aux États-Unis, en Angleterre, pour monter un financement participatif. Donc c'est aussi pour ça qu'on participe à un maximum de conventions, qu'on parle du projet, un petit peu comme si vous avez suivi, c'est comment, Shyness, le dernier projet, dernier projet français Shyness, qui a été mis sur Kickstarter mois dernier, quoi, en fait, hein, c'est ça, qui a réussi d'ailleurs. Bravo eux.
Tout à fait. Bravo. Cocorico.
Cocorico. Ouais, je préfère Witchmarsh perso, mais bon, c'est...
En France, vous avez quand même Ulule que vous pourriez...
Ah oui, très...
vous pourriez choisir.
En fait, ça dépend combien est-ce que vous attendez
Oui, voilà, c'est plutôt ça.
Retour. C'est moi, ouais. Si ça, c'est moi qui ai une question pour vous à ce moment-là. À votre avis, ça coûte combien un jeu comme ça?
De quoi?
Bon, 2 euros sur Steam.
En attendant les soldes. Non, 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 carrément pas. Je sais pas, le genre de...
C'est très difficile.
À fabriquer.
Difficile.
C'est hyper compliqué. Ça, par contre, j'ai aucune notion.
On est pas de l'autre côté de la barrière.
Quand, en fait,
Non, mais je vais pas vous embêter plus.
Non, mais, par contre, tu vas nous répondre.
Plusieurs centaines, centaines de milliers de dollars, centaines de milliers d'euros, donc forcément, Ulule, on les a rencontrés dans le cadre de notre, dans le cadre professionnel. On travaille donc avec Damien dans une entreprise qui a un projet sur Ulule actuellement et donc on peut voir de l'intérieur comment ça se passe et en France c'est vraiment très difficile. Ulule, même si c'est une
c'est
à mon avis pas forcément la plateforme la mieux adaptée pour tout ce qui est jeux vidéo. C'est beaucoup plus simple pour une boîte française qui a envie de d'aller une petite équipe super motivée d'aller mettre un projet en ligne et puis de dire ouais venez tous là mettez tous 10 euros et puis on va y arriver quelque part derrière t'as nettement moins de chances d'obtenir plus que 5000 euros quoi.
Ça, dès que tu veux dépasser les 100 000, je crois qu'il y a que Kickstarter, hein. Enfin en tout cas pour Ulule, il y a eu le qui
d'à peu près vidéo, oui.
Enfin, surtout pour le jeu vidéo, pardon.
T'as eu MagRunner.
Ouais, MagRunner, ouais, mais enfin.
En fait, t'as eu MagRunner qui a permis d'avoir. Mais c'était quelque chose d'assez particulier et on voit ce que ça donne aujourd'hui.
J'ai même pas suivi ça.
Sans être méchant, hein.
Ah bah, c'est Ulule, c'est comment c'est Cthulhu mélangé avec Portal, là, je sais pas, un truc comme ça, c'est très bizarre.
Ouais, avec Portal, hein, c'est Portal Cthulhu. Donc, alors, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux conventions, et c'est pour ça aussi qu'on fait des conventions, comme le disait David tout à l'heure, ou Charlie Vincent, c'est que le principe de ces conventions, c'était déjà de voir, et de voir en fait la communauté qu'on pourrait avoir, de voir si notre jeu, la représentation du jeu qu'on propose en fait plaît. Et donc de commencer à créer notre communauté, car aller chercher un financement participatif, ça implique déjà d'avoir une communauté. Il y en a beaucoup qui croient que tu mets un projet comme ça sur Kickstarter, pouf, ça va se faire tout seul, t'as rien à faire. En fait, c'est vraiment un boulot de longue haleine, c'est quelque chose qui se prépare énormément à l'avance, et l'idée c'est d'être déjà identifié. Et comme le disait tout à l'heure Vincent, Polymanga et Stunfest, qui sont avec Art2Play, trois conventions qu'on a pu faire, on a eu vraiment deux publics différents. Le public de Art2Play de Polymanga était un plus, je dirais, un public pas qu'au jeu le gamer, parce qu'il y a aussi des joueurs, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment l'animé, qui aiment le manga ou autre, qui sont pas forcément attachés au jeu. Il y a aussi beaucoup de mères de famille, pères de famille, des enfants qui sont là, donc c'est très intéressant d'avoir eux leurs avis. Et ensuite le Stunfest pour nous était vraiment une étape où on a pu rencontrer vraiment des joueurs, des personnes qui ont des références. Par exemple tout à l'heure vous parlez de Guacamelee, c'est super intéressant.
Ça a disparu. Oui, Guacamelee est super intéressant.
Et c'est toujours intéressant.
Intéressant.
Ouais, et c'est toujours vachement intéressant de partager avec aussi des gens qui sont des connaisseurs, parce que faut pas se leurrer, bien sûr, quand on crée un jeu, on a une idée, mais on a aussi des cibles. Et évidemment, nous, on cible des gamers aussi. On cible des gens qui veulent des histoires. On cible des gens qui aiment la 2D. Donc c'est aussi notre public en fait le Stunfest, et au-delà de ça, comme le disait Vincent tout à l'heure, c'est on a pu rencontrer la scène indé et être identifié aussi, donc c'est très intéressant de pouvoir se dire il y a des copains qui sont dans la même situation et on va pouvoir échanger, je pense aux potes de Splasher entre autres, et ça c'est vraiment chouette du coup de les rencontrer et de d'échanger là-dessus.
Ouais, effectivement, c'est vous devez de toute façon rayonner un maximum large quoi, pour vous faire connaître un maximum. Après, vous avez un plan de communication. Vous êtes dans la com.
Il nous faut un tourbus. On va faire une tournée en Europe cet été. On a besoin de
vous faites tous les festoches.
Bien que précis.
Vous faites des opérations quasi.
Après le Stunfest.
Le Hellfest, c'est ça.
C'est bon, ça.
Ceci dit, avec la bande son du jeu, je suis sûr qu'il trouverait son public aussi.
Ah ouais, pas faux, pas faux.
C'est vrai.
On poserait bien
on va refaire
Interville,
mais version.
Sinon, c'est moi, je trouve intéressant qu'il y ait un parallèle avec Guacamelee. Je voudrais savoir un peu. Enfin, je pense savoir ce qui a évoqué. Enfin, ce qui vous permet de dire ça, mais. Ou de qu'est-ce qu'il y a.
Il n'y a pas que Guacamelee.
J'ai pensé à ça.
Guacamelee, moi j'ai pensé, mais parce que j'y joue encore récemment à Hotline Miami, aussi étonnant que cela puisse paraître, mais j'ai pensé en fait à toute cette vague de jeux. C'est bon jeu aussi, oui, mais toute cette vague de jeux 2D qui ont des graphismes un peu old school et qui font penser à des petits jeux qu'on jouait étant petit, mais qui derrière ça ont une histoire. Pas vraiment bien construites, qui sont juste magnifiques et qui ont une patte, que ce soit graphique, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit vraiment. Enfin, moi, c'est le style de jeu qui me botte beaucoup d'ailleurs en ce moment. Donc,
sauf que là, Helios, c'est quand même vachement plus fin comme dessin que.
Ah oui, non, tout à fait, oui, c'est pas du tout la même chose. Mais non, c'est pour ça que j'ai dit, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai eu l'idée de Hotline Miami également. Et je sais que c'est totalement à l'opposé, mais c'est vraiment dans l'idée d'avoir.
L'idée d'avoir.
Des graphismes 2D et d'avoir.
D'accord.
Quand j'ai coupé.
et moi, perso, pour Guacamelee, c'est quand j'ai pris la manette et que j'ai commencé à jouer, bah, j'ai retrouvé exactement le même gameplay, les mêmes boutons, les mêmes. Enfin, j'ai retrouvé tout de suite le truc. Après, je sais, ouais, c'est parce que aussi j'ai
alors ça, c'est...
beaucoup joué sur à Guacamelee il y a pas longtemps, et je sais pas, quand j'ai pris la manette et que j'ai commencé à jouer à Helios, j'ai fait bah, tiens, je retrouve le même style, tu vois, dans le style de saut et tout ça, je retrouvais les, je sais pas, il y avait un pattern qui ressemblait. Après, c'est mon ressenti. Je sais pas du tout.
C'est là
si
que c'est intéressant qu'on revienne peut-être sur.
C'est génial comme ressenti.
Sur aussi sur. Mais qu'est-ce que c'est, Helios? Parce que je vois. on en parle, mais on n'a même pas parlé du personnage principal. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Non, mais enfin, Helios, ça se passe à trois. Qu'est-ce que tu veux? Le reste après, on s'en fout.
Bah, vas-y.
Et donc là, Damien, vas-y.
Damien, pitch.
Non, mais il n'y a pas de chef dans notre équipe. Mais Damien, vas-y.
Alors, moi, je veux dire un truc qui je trouve intéressant, c'est que quand quand on a pensé au gameplay d'Ilios, etc. En toute honnêteté, David et moi notamment, et Vincent, Charles, je crois que tu y as un petit peu joué. Moi, Guacamelee, j'y ai joué 5 minutes ou 10 minutes, et il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est intéressant parce que Guacamelee n'a pas été une référence en fait par rapport à Helios au niveau du game design. Mais je pense qu'on retrouve des similitudes parce que Guacamelee pioche aussi dans des références plus anciennes comme les nôtres. Et on retrouve notamment tout ce côté action aventure 2D comme les Megaman notamment entre autres hein, ou du Castlevania, et on va retrouver en fait une représentation du moins graphique qui s'y rapproche, et ensuite les contrôles, si au final on est retombé sur des contrôles qui pourraient faire penser à Guacamelee, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que les choix qu'on a fait fonctionnent. Donc je trouve ça plutôt rassurant. C'est vrai que le passage dans les dimensions, Péremptoire pose la question sur le l'IRC, donc c'est intéressant. Après, on s'est renseigné sur Guacamelee pour voir à quoi ça ressemblait, et j'étais un peu déçu de voir que Guacamelee, en fait, le système de dimension est très intéressant dans le level design, donc vraiment sur la façon dont tu vas pouvoir évoluer dans les niveaux, quoi. Mais qu'au final, en termes d'histoire, ça va pas forcément t'apporter grand chose, donc c'est vraiment une killer features pour le level design. Quand nous on avait pensé en fait à la façon de rentrer dans le monde divin, ça s'appelle le monde divin, il y a une histoire en fait qui nous permet de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on peut le faire et qu'est-ce que ça apporte. Et l'idée c'était d'aller, nous on avait une idée en fait très loin, de pouvoir se dire, eh bien, Grâce à en étant invisible, je vais pouvoir éviter des ennemis, bien évidemment. Je vais pouvoir faire apparaître des choses que le dieu veut me faire voir. Mais surtout, la feature, c'était d'être en fait un héros à moitié dieu, moitié humain, qui va pouvoir avoir des super pouvoirs et latter tout le monde en devenant invisible, ouais. En réapparaissant derrière l'ennemi, en l'envoyant en l'air, en réapparaissant en dessus, en le tapant. Il disparaît, il réapparaît derrière un mur. C'était vraiment en fait ce côté un peu la Diablo de.
Mais de qui tu parles, Damien?
X-Men, en fait.
Je vois pas.
Je vois pas de quoi tu parles.
Non, parce que en fait, il faut savoir. Je vais juste t'interrompre un peu parce que en fait, pour resituer, on joue un des princes de la famille royale de Troie.
Celui dont on ne peut pas prononcer le nom.
Voilà, exactement. Vol de Tess, non, Politesse, qui est donc laissé pour mort après le premier assaut. Sur la ville et qui se réveille et donc se rend compte que sa famille a été décimée et qui va donc de vouloir se venger avec des pouvoirs que le dieu de la cité, donc Poséidon, va lui octroyer. Et dans ses pouvoirs, il va lui être donné un casque qui est la Kuné, et ce casque lui permet de rentrer dans le monde divin, donc de devenir invisible par rapport aux humains. Il devient invisible dans le monde réel et il rentre dans un monde divin qui lui permet il ne peut plus taper, mais par contre il peut se déplacer et de réapparaître à un endroit pour par derrière, par exemple, pour taper sur les ennemis, entre autres. Et donc voilà, on va lui octroyer ce pouvoir là qui va être donc le pouvoir d'invisibilité et de déplacement instantané, et un autre pouvoir qui est un bras en fait qui va lui être donné à la place de son bras, un bras mécanique et divin. C'est là où nous on cherche notre steampunk justement. Et donc ce bras mécanique et divin va lui permettre de tirer de l'énergie du monde divin et de s'en servir pour tirer sur ses ennemis un peu à la manière d'un Megaman, quoi. Et donc il va chercher dans un premier ouais, c'est une référence claire à Megaman. Il va chercher à se venger dans un premier temps.
Bah oui, il est énervé, hein. Tout le monde est mort, il est un peu vénère. Hein.
Oui, l'idée aussi, c'est que c'est un conflit qui oppose les Troyens aux Achéens, mais qui a aussi une grande part jouée par les dieux qui se mêlent de l'histoire et qui seront en l'occurrence les boss du jeu. Et le bras, la scythe dont parlait David à l'instant, ce qui va être super intéressant au niveau du gameplay, c'est que chaque boss vaincu, on pourra récupérer son arme, son pouvoir, par exemple Ares, qui sera a priori le premier combat qui se passera de boss à la fin du premier stage, utilise une lance, elle pourra être récupérée par Politesse, et après ce bras mécanique pourra se morpher dans et avoir des attaques spéciales qui serviront à enrichir les combos à partir de cet artefact récupéré. Donc a priori, l'idée c'est d'enrichir le gameplay au fur et à mesure de la progression du personnage.
Il y aurait une gestion de compétences un peu, enfin, où on peut gérer justement ce tout.
Oui,
d'accord.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que en détruisant en fait ses ennemis, Politesse peut récupérer une énergie divine qu'il voit dans l'autre plan, qui lui permettra d'améliorer ses compétences, alors que ce soit ses compétences de barre de vie ou autres, qui sont des compétences latentes classiques, ou alors d'acheter de nouveaux pouvoirs, comme la Divin Sens sur la lance d'Arès. Il y a différents pouvoirs qui seront débloquables en utilisant cette monnaie divine, en fait. Voilà. C'est des mécaniques souvent qu'on retrouve dans d'autres jeux qui sont aussi nos références, qui sont vraiment les jeux tels que Devil May Cry, Bayonetta ou autres. C'est aussi des références fortes pour montrer notamment en fait la longueur des combats et la façon dont ça peut être joué. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire à quoi ça ressemblerait en fait en 2D d'avoir une vélocité de combat et des combats aussi longs qu'on pourrait avoir dans un Bayonetta, dans un Devil May Cry ou autre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On a Ninja Gaiden par exemple.
Belle référence.
Après, il y a tout un autre pan sur le jeu que vous pouvez voir dans la démo aussi, qui est également toute la partie des dialogues. Alors, dans la démo du Stunfest, on le voit clairement, on retombe en fait sur un personnage qui a tué Politès au début du jeu, et on passe dans un mode de dialogue avec des chants contre chants, petit côté bande dessinée en fait, animée. C'est aussi une des volontés qui est de passer par ce système-là pour raconter notre histoire et pas rester sur les codes classiques qu'on retrouvait sur les jeux 16 bits notamment, ou même dans les jeux tels que Castlevania Symphony of the Night, où on restait vraiment dans la scène classique avec les deux sprites et un pauvre texte qui passait en bas. C'était vraiment d'amener beaucoup plus de caractère et d'informations en fait à travers des scénettes, hein, telles que vous avez pu voir dans la démo.
Ok, et j'avais une question du coup un petit peu plus technique. Pourquoi Unity alors que vous avez un moteur à vous ?
Alors, David va pouvoir répondre à tout ça, mais en fait, le moteur.
Ouais. Parce qu'on voit que Aura ouais. Studio.
En fait, si tu veux, le moteur qu'on avait utilisé pour. Ouais, le moteur qu'on avait utilisé en fait à l'époque, c'était vraiment un moteur fait de rien, et donc du coup c'était développé ça en 2002-2003. Il y a eu beaucoup de temps déjà pour réussir à obtenir quelque chose avec Sensei RPG et les technologies évoluantes, etc. À quoi ça sert, et là David va pouvoir prendre le relais, à quoi ça sert de créer en fait quelque chose à nouveau alors qu'il y a des super outils comme Unity qui existent?
Oui, voilà. Bah, le premier moteur, je crois que c'était un moteur, bon, pour parler techniquement, OpenGL C++. Mais je connais pas du tout, je l'ai jamais vu, parce qu'en fait, moi je suis arrivé sur le projet après. Et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Unity, pourquoi Unity? Parce que ça permet de cibler un maximum de plateformes, notamment donc PC, Mac, mais. Aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu justement au Stunfest, on présentait la version Vita. Une version Vita, on pourrait imaginer une version PS4, Xbox One, Xbox 360, enfin peu importe. Enfin, Unity, ça va partout et c'est assez magique. Il suffit d'appuyer sur un bouton, de prier, non, et puis de regarder le jeu fonctionner sur la nouvelle plateforme. C'est assez magique et c'est très très puissant. C'est pas fait que pour faire des jeux pour mobile, quoi. C'est vraiment, enfin. Moi, je trouve que c'est la baguette de Voldemort, le truc. C'est un truc incroyable. J'ai découvert ça. Moi, je suis plus dans le pur et dur à l'origine, quoi, parce que j'ai développé mon propre moteur, enfin, dans le cadre professionnel, DirectX, OpenGL. Et bah avec ça, c'est tellement plus facile, plus rapide.
Ouais, ça se comprend. C'est génial. Ouais, c'est clair. Pourquoi réinventer la roue alors qu'il y a un truc qui tourne très bien, qui est utilisé, qui est...
Ouais, il ouais. y a une communauté qui est de plus de 2 millions de développeurs, c'est... Il y a 22 plateformes accessibles, la PlayStation...
On a même de faire tourner son navigateur, j'ai vu.
Oui, ouais, tout à fait, ouais, puisque t'as pu... Enfin, on va certainement... Je sais pas comment on va faire encore, mais la petite démo qu'on a montrée au Stunfest, on l'a mis en ligne, là, je sais pas si c'est encore le moment de la partager, parce que bon, il y a encore beaucoup de choses qui sont un peu des
non,
brouillons,
non, c'est pas encore le moment de la partager.
des brouillons de graphes, donc c'est pour ça que pour l'instant ça va rester un petit peu privé, mais on essaye.
Partagerai le lien sur mon moteur de torrent préféré. Ouais. Trouverez,
On essaye d'aller très très vite vers ça, ouais. Mais ouais, c'est ça. On sait bien que ça arrivera, on sait bien. Vous nous aurez tous donné votre argent au moment du Kickstarter, c'est pas grave.
Voilà, c'est ça. D'accord.
Alors, j'ai une petite question, en fait, sur... parce que vous pensez que vous parlez d'autres petites choses aussi à gauche, à droite, mais vous avez d'autres projets que iOS actuellement? Vous travaillez sur d'autres jeux en parallèle, ou il y a d'autres projets dans les cartons qui arriveront et dont vous pouvez déjà nous parler?
Voilà, c'est prématuré. Il y a des idées, hein, qui traînent, hein, depuis pas mal d'années.
Il y a un abouti quand vous travaillez vraiment à fond sur iOS et...
Ah, pour le moment, oui, c'est la priorité, ouais. Mais David et Damien ont déjà ont commencé à écrire pas mal de concepts déjà. Mais
en fait,
je sais pas si c'est...
oui, il y a différentes choses. Voilà, je sais pas si Damien voudra s'exprimer, parce que c'est lui game designer. Alors beaucoup, enfin, les idées naissent de la discussion, hein, de toute façon. Mais dans l'idée, c'est que on vient d'exhumer justement la version shoot 'em up de Ilios. pour en certainement refaire quelque chose. On est en train de travailler là-dessus, mais c'est plus parce que le planning nous le permet que vraiment un investissement à 100% dessus, quoi. C'est-à-dire que là aujourd'hui, Ilio, c'est beaucoup du graphisme, faut développer beaucoup l'univers, le graphisme, et on a la possibilité aujourd'hui de réutiliser ce qui avait été fait sur le Shoot'em Up pour en sortir une version jouable très très vite, un prototype qui pourra être montré peut-être
bientôt.
Je veux encore me faire taper sur les doigts, moi, parce que je dis des trucs qu'il faut pas dire. Mais bon, je lui ai montré aujourd'hui encore, il avait l'air content.
Tu parles au chef, là, c'est ça?
Mais oui, mais comme le dit David, effectivement... Il y a beaucoup de boulot, en fait. Ça demande beaucoup de boulot, franchement. Helios, c'est un long travail graphique. Là, on a décidé d'avancer sur la bible graphique et sur la charte graphique, donc Vincent et Charles vont pouvoir en parler. On a décidé donc de travailler dessus parce que c'est quelque chose qui est nécessaire. Il y a beaucoup de boulot aussi à faire sur l'animation, parce que vous avez pu voir le résultat sur le Minotaur. C'est quelque chose d'assez long à réaliser. Et on peut pas se permettre effectivement de s'éparpiller sur les projets. Et donc vu que toute l'énergie en fait graphique est vraiment monopolisée par Vincent et Charles, Stéphano, enfin bref tous les graphistes, ça nous laisse du temps avec David aussi pour faire comme l'a très bien dit David, exhumer en fait cette première version du projet et tester des choses à côté. Et c'est vrai que là David a énormément avancé sur une version du shoot them up, et puis on verra à quel moment on en parlera, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça nous permet de consolider l'univers d'Ilios à travers peut-être un second jeu, je sais pas, on verra la façon dont on en parlera.
Sinon, on est comme tout le monde, hein, on a plein d'idées.
Hein. Mais malheureusement, pas
voilà,
temps
mais je peux te donner quelques noms. Hémicycle Fight, Serre à droite, Déchiré, Constipator. Les trucs débiles qu'on fait quand on est bourré.
Il y en a
voilà.
Plein.
Constipateur, j'ai
tu vois, ça marche.
Ah, si tu aimes les Tower Defense intestinaux, tu vas adorer.
Tower Defense intestinal, constipateur.
ça va te plaire. Comment enlever les... Voilà, et donc ça permet de faire, je pense, la transition avec toute la partie graphique sur Ilios, si vous voulez. Vous avez Vincent et Charles de présent, n'hésitez pas.
Justement, j'étais sur le site de Vincent, parce que Vincent, c'est bien toi qu'on avait vu et avec qui on avait parlé au Stunfest. Et il y avait un petit classeur avec plein d'artwork, dont le Minotaur et tout ça. Et donc là, j'étais sur son site et je suis retombé justement sur des dessins du Minotaur. Et donc, d'où tu pioches tes idées pour dessiner ce genre de... Tu vas directement dans la mythologie et puis tu vas regarder,
Ouais, moi je considère que j'ai une approche un peu old school, je dirais. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'influence des jeux vidéo, vous parliez encore de Guacamini... moi je viens à peine de me mettre à Mark of the Ninja, je suis beaucoup l'actualité, mais je joue encore assez peu et c'est pas ce qui m'influence le plus, parce que c'est des choses qui sont faites par des gens de ma génération voire plus jeunes, et c'est pas tout à fait moi quand on recherche toujours son propre processus de dessin mais aussi de recherche. Donc quand je parle de méthode peut-être un peu plus classique, c'est-à-dire que là on est allé avec ma copine à la bibliothèque, j'ai demandé des bouquins sur la Grèce antique et je me bouquine ça le soir déjà, et ça me donne des idées, ça me donne des bases solides pour tout ce qui est ensuite développement des personnages. Et après, je dirais, j'ai pas une seule église, quoi. Je vais aller chercher un peu partout, ça peut être dans le cinéma, dans la BD, dans des choses qui a priori n'ont rien à voir. Par exemple, on parlait rapidement du dessin de presse tout à l'heure aussi, c'est des choses qui vont dans l'efficacité, dans l'idée aussi, je m'y retrouve. Et ma formation d'animateur 2D aussi fait que j'ai une approche clairement en volume, et je cherche plus à être efficace au niveau de la lisibilité du personnage avant d'ajouter les petits détails. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais...
Si, non, très bien. C'est vrai que... alors après, la démo qu'on a vue au Sunfest c'était quand même plutôt bien fait, sauf il y avait le... Enfin, bien avancé, je veux dire, dans tout ce qui était détail et tout ça, sauf Politesse, qui lui était en noir et blanc, qui n'était pas encore colorisé.
Ouais, c'était encore un placeholder, je pense que là, on pourra en discuter, et Charles aura aussi clairement son mot à dire. Rapidement, dans tout ce genre de processus créatif, il y a des personnages, en une demi-heure, ils sont là, on sort un croquis sur un bout de nappe, boum, c'est parti. Et il y en a d'autres, ben on se bat pendant des mois pour l'avoir. Et là, on parle du héros, donc il faut qu'il ait de la gueule, il faut qu'il soit accrocheur. Et donc, c'est un boulot qui nous prend du temps. Il y a eu beaucoup de versions et il y en aura encore d'autres, je pense, avant qu'on mette tout le monde d'accord.
Et donc, vous êtes, je sais pas, par exemple, pour faire le Minotaure, il y a eu combien de versions, combien de... Enfin, je sais pas, combien de temps ça peut prendre pour dire, bah tiens, cette version-là, c'est bon, on s'arrête là.
Ouais. Le Minotaur, il y a eu énormément de versions. Probablement trop. Vous en avez vu certaines. En plus, je suis... rapidement, moi aussi, Ilios, c'est le projet qui m'a permis de plonger dans le monde du jeu vidéo. Donc, j'ai toute une expérience d'animateur, d'illustrateur derrière. Mais après, j'apprends sur le tas, sur énormément de choses. Et du coup, l'approche du Minotaur aussi, elle a été... artistique, mais aussi après maintenant technique. J'ai sorti des premières versions qui étaient, j'imagine, sympas au niveau des volumes et de la gueule du perso, mais après il fallait en faire un sprite animable, et c'est sûr que là tous mes collègues Damien et compagnie m'ont un peu pris par la main pour me dire attends, il faut que tu partes par là si tu veux un truc qui soit ensuite animable facilement, quoi.
Ça peut faire la transition vers aussi une vidéo qu'on a réalisée il y a quelques temps. En fait, sur Angoulême, il y a ce qu'on appelle un Unity User Group. Donc c'est un groupe de développeurs en fait qui se réunissent souvent tous les deux mois, un mois et demi, deux mois, et on échange sur les techniques et les procédés de réalisation en fait. Et on en a fait un sur les différentes techniques d'animation dans Unity. Et notamment, on évoque toutes ces questions-là, et je vais vous coller le lien en fait pour que vous puissiez aussi la voir, parce que ça peut répondre à quelques couleurs, quelques réponses, ça peut être intéressant pour vous.
Oui, carrément.
Je pose une question en fait, parce qu'on parle ici de plein de processus de développement, de dessin, de temps que ça prend, etc. Mais en gros, vous en êtes où là dans le jeu? Et vous savez à peu près estimer à combien de temps vous en êtes, ou combien de temps il vous reste pour arriver à le terminer? Vous espérez une sortie, courant 14, courant...
ouais,
déjà un bon début, oui.
C'est pas mal. Non, pour répondre, là, c'est difficile d'établir un pourcentage sur le développement total du projet. Je pense que notre souci actuel, il est d'éprouver les outils et les techniques. Tout à l'heure, Vincent parlait de choses réalisables et comment dire exploitables pour le jeu quand on fait des recherches. C'est que on peut en faire une infinité, mais après il faut penser à des processus de production qui permettent d'enchaîner la création de divers monstres et personnages et de facilement les animer, les implémenter et d'enrichir l'univers, quoi. Donc pour l'instant la priorité elle est là, s'assurer que on utilise les bonnes méthodes, les bons outils, et optimiser voilà ce pipeline de production.
Mais il faut bien qu'il sorte un jour.
Bien sûr, ouais.
Ouais. Et c'est quelque part, moi je suis là pour fouetter tout le monde pour avoir les chiffres, pour calculer quand est-ce que ça va sortir tout ça.
Et donc, si tu as les chiffres.
Alors, si je les avais, je les donnerais. Non, c'est vrai que c'est un truc difficile. On tourne toujours autour du pot, mais nous, on estime, moi, en tout cas, j'estime entre 12 et 18 mois, tu vois, le temps de développement, quoi, total du jeu. Parce que c'est un assez gros jeu. Il y a quand même 9 niveaux. Tu as joué à Dragon's Crown. C'est plus gros que Dragon's Crown, quoi. Donc il faut. Bon, Dragon's Crown, ils ont mis 4 ans. Hein. c'est ça, non? Je sais plus, c'est quelque chose comme ça. Donc si on vise un truc comme ça, on n'est pas prêt de se revoir. Non, on va. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, On pourra plus dire oui, on sait pas trop, on verra, machin, tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on doit encore affiner, quoi. Affiner parce que c'est nécessaire pour pouvoir établir le budget définitif et après, bah, dire à tous les gens qu'on rencontre, bah, écoutez, ça sortira fin 2015, en même temps que The Division. Enfin bon. Non, mais voilà, l'idée, c'est que quand on met les trucs bout à bout, ça va prendre 12 à 18 mois, je pense. Mais tout dépend. Avec, tu vois, sur un jeu comme ça, ce qui est compliqué, c'est que ça peut aller très très vite quand t'as la technique et qu'ensuite tu peux enchaîner les niveaux et la fabrication des persos très rapidement, quoi. Et t'as plus qu'à avoir une équipe plus grande pour aller plus vite, quoi. Donc il faut plus d'argent, certes, dans un temps plus court, mais ça peut aller très vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'incertitude qu'on a sur bon bah comment on va faire, quelles sont les techniques qu'on va utiliser, on est en train de défricher ce truc-là, on analyse Dragon's Crown, tous les projets de VanillaWare, tous les jeux de VanillaWare, image par image, pour comprendre comment ils font, pour s'inspirer et trouver la bonne technique. Et une fois qu'on saura ça, on va pouvoir déterminer bien plus précisément ce qui va être nécessaire pour arriver au bout, quoi. Ah oui, bah on est tous motivés, je crois. On est motivés entre 22h et 3h du matin.
Lancez votre projet Kickstarter et puis après, et le week-end. Ça va décoller.
La grosse masse de boulot aujourd'hui, elle est sur le développement graphique dont on a parlé un petit peu au début et tout l'univers à développer graphiquement, notamment pour vraiment définir cette patte, ce mix grec mythologique et steampunk. Et c'est pour ça que David et Damien parfois rongent un peu leurs freins parce que c'est un processus, le processus graphique qui prend énormément de temps et en plus aujourd'hui on est trois. Et c'est pour ça qu'on fait rentrer plus de gens pour nous aider sur cette partie-là. Mais je pense que, comme disait David, une fois que ce processus va être lancé, sans être bêtement optimiste, on devrait diviser par deux, si ce n'est par trois, notre temps de production, parce que pour l'instant, on a surtout beaucoup essuyé les plâtres, quoi.
Ouais, et puis faut pas que vous vous lanciez dans une quatrième version du jeu, quoi.
C'est ça, non.
Là, je pense joli, que vous tenez joli, dans le joli. Bout.
Non, là, je te rassure, on a trouvé notre stabilité.
Ouais. Non, mais de toute façon, vu comment on était trois à avoir joué au Stunfest, et puis on est restés tous les trois vraiment scotchés à se dire, celui-là, ce jeu-là, s'il y a un Kickstarter, on le kickstart, et s'il sort, on l'achète. Donc, alors que on a joué, je sais pas, même pas 5 minutes, quoi, parce que l'ambiance, l'univers nous a fait dire ouais, ça c'est un truc qui nous plaît, et donc
ça vous a parlé.
Donc j'ai pas peur pour le succès du jeu. Maintenant, clairement, ouais, c'est, il faut faire un max de com, et ça c'est le boulot le plus chiant aussi à côté, parce que c'est, ah, c'est vrai, hein, c'est faire la com, c'est vraiment le truc super relou. Et on le sait un peu avec nous à notre très faible niveau pour du podcast, pour essayer,
on fait de la com.
On est obligé à minimum de faire de la com. Dans nos anciens podcasts, on en faisait aussi, dans les feu anciens podcasts.
Oui,
mais on est obligé de faire un peu de com, et c'est le truc qui, quand c'est pas notre boulot, puis c'est un peu chiant de faire de la retape tout le temps, d'aller et pour un jeu, ça doit être assez complexe aussi de se taper toutes les conventions, de se bouger, alors qu'on se dit merde, je perds du temps à faire mon dev, donc bon courage.
Alors, comme l'a très bien dit des développeurs indépendants très récemment, c'est tu passes une partie de ton temps à faire du développement, l'autre partie à communiquer. Et si tu veux survivre ou montrer ton jeu, t'as pas le choix, il faut aussi se transformer en personne qui va communiquer. Je dirais que le fait de faire des salons, au contraire, je trouve ça toujours génial. Tu rencontres plein de personnes, ça remonte vraiment, ça redonne vraiment beaucoup d'énergie. C'est toujours excellent d'être en contact du public. C'est quelque chose qui nous, enfin, moi personnellement, ça me plaît toujours vachement de voir ce que ressentent les gens et d'avoir leur retour. Ce que tu nous dis tout à l'heure, forcément, ça fait chaud au cœur et ça nous booste. Mais derrière aussi, c'est vraiment chouette de communiquer sur le projet. Alors après, le souci des fois, c'est qu'on n'a pas forcément grand chose à communiquer parce que ça prend du temps de développer quelque chose. On va pas communiquer en disant ouais, on a fait 25 versions qui n'ont pas marché. Wouhou. Donc c'est ça le truc derrière, c'est que il faut aussi avoir du contenu et bah forcément ça prend du temps de faire du contenu, mais pendant ce temps où on fait du contenu, bah on n'a rien à dire. Donc il faut réussir à alterner et avoir toujours un train d'avance, et on a de la chance, je dirais, dans notre expérience, d'avoir aussi des journalistes en contact. On a vraiment grandi notre réseau grâce notamment aux conventions. Et ce sera aussi des acteurs qui vont pouvoir nous filer un coup de main. Et ça, c'est toujours chouette, quoi.
Ouais. J'avais une question aussi. Là, c'est plus pour le futur Kickstarter et tout ça. Ça vous fait pas peur d'avoir une grosse pression des gens qui le kickstartent? Parce que si vous demandez, je sais pas, plus de 100 000, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de backers et donc beaucoup d'attentes. On le voit sur beaucoup de projets où dès qu'il y a un petit peu de retard, ça commence à partir en live et puis les gens commencent à gueuler et ça fait une mauvaise presse du coup au jeu ou au produit qui est kickstarté. Vous avez pas une grosse pression là-dessus de vous lancer là-dedans?
Ah, c'est un truc auquel on pense assez souvent. En tout cas, moi, auquel je pense assez souvent. Je pense que... Enfin, bon, déjà, il y aura quelques milliers de personnes. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Quelques milliers de personnes, tu te dis, waouh, quand même, ça fait un paquet de monde. Mais si regarde ce qui s'est passé avec Tim Schafer, avec la sortie, ouais. Voilà. Ouais. Bon, on n'est pas dans la même catégorie, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais ils ont sorti un bon jeu. Du coup, les gens, ils ont pas non plus été, enfin, tu vois, à aller brûler le studio ou des trucs comme ça, tu vois, ou aller poursuivre en justice, quoi. Ils ont été patients. C'est ça qui est vachement bien avec les backers, justement. C'est que les vrais backers, c'est des gens qui vont suivre ton projet et quoi qu'il arrive, ils vont suivre ton avancée, quoi. Ils vont être derrière parce qu'ils y croient. Parce qu'ils voient les choses avancer. Et nous, là où ça fout la pression, c'est que ouais, il faut qu'on ait un truc de qualité. Mais de toute façon, cette pression-là, on se la met nous-mêmes, tu vois. Oui. Et on est déjà un boulot la journée, le deuxième boulot la nuit. Tu vois, je pense pas que ça changera grand-chose. <tu vois.
rire> Du coup, un gros conseil, c'est de communiquer un maximum après que ça soit kickstarté, jusqu'à ce que ça sorte. C'est de donner des infos super régulièrement, parce que on l'a vu avec Nico, on avait kickstarté une montre connectée qui s'appelle la Kreios, qui a pris du retard il donnait aucune info, et au moment où il disait ah bah tiens, on va avoir du retard, on prend 3 mois, ok, d'accord, 3 mois après, ah bah on reprend 3 mois, et on avait aucune info, juste on prend du retard, et donc du coup bah nous on a annulé, et il y a eu je sais pas combien d'annulations de commandes, et bah du coup maintenant elle a une super mauvaise image. C'est le truc sur Kickstarter que j'ai vu aussi plusieurs fois dans plusieurs projets que j'ai kickstarté, où il n'y a pas du tout de communication. Le Kickstarter se termine, il n'y a plus de com, jusqu'à ce que normalement ça doit sortir, et puis ça sort pas, et puis ça prend du retard. On sait, en tant que backer, que tous les projets vont dériver et vont pas arriver à pile poil à la date. On le sait que ça va prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois.
C'est
dans
le jeu vidéo, c'est obligé. C'est
et donc, mais s'il n'y a pas de com pendant,
puis,
c'est mort.
Il y a aussi la faute aux stretch goals également.
Oui, aussi.
Les stretch goals.
Et
ouais.
Voilà, et les et en causer vraiment beaucoup de tort, parce que du coup tu vas faire des promesses à tirer un petit peu par au-dessus la jambe si t'as pas forcément beaucoup d'expérience ou telle chose, où tu dis simplement eh ben je vais rajouter un niveau, mais même si tout ton système de jeu est fait et, etc, rajouter par exemple ne serait-ce qu'un niveau, mais c'est monstrueux en termes de temps. Alors t'as les faux stretch goals avec les oui on va faire une version Linux, on va faire une version Mac, donc ça c'est les faux stretch goals qui demandent 20 000 boules de plus pour faire ça, c'est simplement hallucinant pour appuyer sur un bouton. Mais ensuite t'as vraiment le stretch goals de violent qui est on va se faire un mode multijoueur, quoi. Waouh, ouais, là faut, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je pense aussi que sur le projet il faut être clair, il faut être vachement transparent, et faut le jeu du stretch goals, malheureusement faut y jouer, parce que maintenant d'autres projets ont posé des standards, faut jouer aussi avec ça, mais faut bien, je pense, positionner les curseurs et de se dire si on fait des stretch goals, faut que ce soit des choses qui soient déjà calculées en amont, qui soient atteignables, qui soient pas forcément foufou. Enfin, je vois sur les derniers projets, t'en as quelques-uns qui ont mis simplement un seul stretch goals à un montant très important, parce que c'est une vraie feature, ce qui demande beaucoup de temps, et je pense que ça a été fait sur Amplitude d'ailleurs, je crois, où il y avait un stretch goals qui était énorme pour un mode multijoueur, parce que simplement Harmonix ont cette connaissance et l'expérience, et ils savent que faire un mode multijoueur ça prend beaucoup de temps. Là on n'est pas comme dans 99 où ils t'ont fait des stretch goals de malade, mais on voit que leur stretch goal était déjà anticipé, limite déjà mis dans leur truc de base, et que ça a servi surtout à faire de la com, et ça a fait vraiment, ça a hypé le projet en fait, en plus du nom de Inafune. Donc je pense qu'il y a derrière une, comme tu le dis, il faut parler du projet régulièrement, et je pense qu'il faut avoir quelque chose de qualité, une belle tranche verticale à montrer, et voilà.
Il n'y a pas un stretch goal pour mettre Ilio sur la Wii U, enfin, je sais pas, un truc.
Il est informé, lui, ou quoi?
Il est fort, il est fort.
Je sais pas, c'est. Non, oui, si, si.
C'est lui, il t'as kidnappé notre graphiste, c'est ça? Non. Ah, la Wii U, peut-être pas tout de suite. Non, non, bon. Damien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit ou on lui dit pas?
Vous êtes vendu.
Bon, on va couper.
On a eu des idées de gameplay asymétrique, mais. Ouais, on a eu des idées de gameplay asymétrique, parce que le changement de plan est quelque chose de très intéressant, et si vous avez joué une version Vita aussi, c'est pas pour rien, parce qu'on a des idées. Voilà, donc bon, déjà concentrons-nous sur le gameplay de base, sur déjà une première mouture, et ensuite on pourra parler de ça, je pense un peu plus tard. Et voilà, mais en tout cas dans l'idée, c'est déjà de proposer une expérience avec une histoire. On veut raconter une histoire, on veut raconter l'histoire de politesse, et ressentir le destin de cet anti-héros, de cet héros, on sait pas trop, enfin on va pas vous le dire, mais voilà, donc déjà contentons-nous de ça, et continuons d'avoir une démo encore meilleure à montrer à un prochain festival, et voilà,
et un futur constructeur peut-être, à savoir. Donc il y a plein de choses qui se font. Les indépendants sont très très chouchoutés en ce moment. Donc on a de plus en plus accès à des choses très intéressantes, hein. Très intéressantes. Wii U, Vita et autres, Xbox One, etc. Ouais. Ça devient tellement plus facile maintenant que ça en devient. Génial, parce que pour nous, bah, c'est la possibilité de faire des choses comme les grands, comme on dit, alors que voilà, on a un studio où on va être 8 au maximum. C'est génial. Enfin, pour nous, c'est super.
C'est ça ce que j'adore chez l'indé aussi. Moi, maintenant, clairement, en tant que joueur, j'attends plus rien des AAA. Je le vois avec Watch Dogs, où je ne peux même pas jouer tellement il est pourri et qu'il est bugué de tout partout.
Je vois pas pourquoi tu dis ça.
Et je regardais ma bibliothèque Steam l'autre jour, j'ai essentiellement que de l'indé. Et pour moi, c'est vers ça que je suis attiré par les jeux indés. Parce que les AAA ne m'intéressent plus du tout, et comme je le disais en off, le 3, j'en disais.
Et les jeux 2D, non?
Oui, les jeux 2D, oui. Mais j'ai encore toutes mes consoles derrière, 16 bits, 8 bits, enfin j'ai tout. Retro Gamer aussi, hein, un petit peu. Mais. En tout cas.
As-tu des bornes d'arcade?
Non, malheureusement.
Moi, oui.
Je rêve.
Très très bien.
Je n'ai pas la place chez moi.
Oh, ça prend pas tant de place que ça. Ma femme a un peu fait la gueule en la voyant arriver, c'est tout.
Je te raconte pas la tête qu'a fait ma femme quand elle a vu qu'il y en avait trois dans la maison.
Bon.
Ah oui, là. Non, trois, je serais pas. Je n'oserais même pas. Je crois que je divorce directement en vendant la maison. Non. Mais justement, une petite question rapide, puisque vous parlez de jeu indé ici, je pense à ça. Vous n'avez pas un peu peur d'être... Pas peur, mais je veux dire, est-ce qu'on se dit pas parfois est-ce qu'on va être noyé dans la masse tellement les jeux indés, depuis quelque temps, on a la blinde. Hein, c'est difficile de se démarquer ou d'être vu parmi toute cette masse. Sans plus, peut-être que vous n'avez absolument pas peur.
Alors de mon point de vue en fait je trouve qu'il y a un truc intéressant qui se passe avec le jeu indé. Je trouve que de mon côté on utilise maintenant la nomination jeu indé un peu n'importe comment aussi, je trouve. Alors pourquoi je dis
Oui, pourquoi?
Il est coupé.
Ah mais il s'énerve derrière mon micro là, tu vois, il... Le jeu indé c'est n'importe quoi.
Arrêtez de parler de jeu indé. Là, il est en train de parler tout
seul. Le jeu indé, c'est pas les jeux indiens. Non, c'est de n'importe quoi.
Il est parti.
Il est parti, en fait. Non, ça revient
pas. Ah, c'est
ça. Alors, moi, le jeu indé. Bon, bah d'accord.
Voilà ce que j'en pense. Les autres, peut-être, alors, un avis
Sur la peur de se retrouver noyé dans la masse.
Oui, ou trop de jeux indés, je sais pas. Vous êtes, enfin, en même temps, vous allez dire vous êtes les meilleurs. On vous remarquera.
Bah, quelque part, c'est aussi pour ça que c'est de plus en plus difficile de construire une communauté et qu'on s'y prend vachement à l'avance maintenant. Et qu'on fait des... même des Clay Entertainment, ils font des early access. C'est justement pour pouvoir aller capter les gens. Enfin, pour dès le début et même avant d'avoir commencé le jeu, quoi. Donc c'est pour ça qu'on fait ça maintenant. On en est conscient que c'est difficile. On est conscient que on a besoin d'une communauté qui nous suit. Et c'est pour ça que bon, on n'en a pas peur plus que ça. On sait bien que c'est un milieu difficile. Donc c'est qu'il va falloir y travailler, passer peut-être 50% de notre temps, de notre temps à communiquer pour pouvoir garder, capter notre audience et puis continuer à avoir des gens qui ont envie de suivre notre jeu et puis de jouer avec.
Oui, puis c'est bien de se tenir au courant de ce qui se fait à côté, qui pourrait être dans le même genre, et Dieu sait qu'il y en a, mais. Mais après, c'est déjà tellement un boulot et un stress de mener son projet à bien que c'est. Enfin, personnellement, moi, je ne vais pas me rajouter une couche de stress en plus en me disant est-ce que lui a fait ceci, est-ce que lui a fait cela. Et il y a quelque chose que je vois, en tout cas pour la petite, peut-être partie originale qu'on aurait au niveau de la direction artistique, c'est que, encore une fois, il y a des approches très diverses, quoi. On est tous un peu. Je parle pour. Pour Charles et Stefano, je nous vois un petit peu comme des francs-tireurs dans notre univers. On est chacun, on a des influences très diverses et des caractères bien marqués chacun. Damien aussi a apporté une énorme partie sur tout ce qui a été un peu jeu de plateau. Enfin, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, à défaut de réinventer la roue, je pense pour moi, vont nous donner une petite fraîcheur par rapport aux jeux que je vois aujourd'hui qui vont être très beaux mais assez vite expédiés. Et là peut-être qu'on revient nous sur des mécanismes de jeu qui vont être à la fois des combats nerveux mais aussi un aspect un peu tactique dans les combats. Bon, on n'est pas sur du Warhammer 40 000, mais on se rapproche un peu de ces idées de ok, tu vas pouvoir foncer, mais il y aura peut-être beaucoup d'autres façons de mener ton attaque et de réussir le jeu, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, peut-être je me trompe complètement, mais de ce que je vois, c'est peut-être quelque chose sur lequel on aurait une petite différence à exploiter à ce niveau-là.
Ouais, enfin, j'ai continué à rebondir sur ce qu'il disait Vincent. Je pense qu'il a bien résumé par rapport à la culture qu'on s'est créée dans l'équipe Aurora et aux idées qu'on défend par rapport aux jeux vidéo. Peut-être que Aurora Studio et Ilios, peut-être que ça sera un projet parmi tant d'autres, mais on peut offrir une synthèse d'une certaine culture du jeu vidéo en 2D. Et que, enfin, je suis pas un grand connaisseur du marché du jeu indé, mais il peut y avoir aussi beaucoup de redites de mécanismes de gameplay qui sont déjà éprouvés depuis longue date. Et Damien a la volonté vraiment d'enrichir un maximum les nouveautés, les nouvelles possibilités aussi avec les nouveaux supports. La nouvelle performance avec les machines. Enfin, ils y travaillent beaucoup avec David. Il y a aussi la volonté de pas créer des applications gadgets. Dans Ilios en tout cas, tout ce qu'on va apporter au niveau du gameplay est réfléchi. Et c'est pas juste un effet de style qu'on va apporter. On est porteur d'une culture du jeu d'aventure en 2D et on a envie de l'enrichir vraiment avec tout ce qui se fait en ce moment, même dans les grosses productions. Mais là, continuer à écrire un peu l'histoire du jeu en 2D, quoi. Mais de manière vraiment conséquente, quoi.
Ouais, c'est ça.
2D, c'est la vie.
C'est ça, exactement, ouais.
Donc voilà.
C'est ça, 2D, c'est la vie. Puis I'm back. Hey, je suis bien, je suis là, je suis de retour. Oui, mais comme l'a très bien dit mes comparses, c'est qu'on a été nourri aussi avec beaucoup de grosses références. Je pense notamment avec Charles, quand on s'était rencontrés. Voilà, on avait les mêmes jeux de prédilection. C'était du Valkyrie Profile, du Vagrant Story, tous ces jeux qui nous ont nourri en termes d'histoire. Puis derrière, bon, y avait aussi la culture me concernant en jeu arcade, jeu action d'aventure. Alors, je me rapproche aussi pas mal de Vincent à ce niveau-là, que ce soit du Mega Man, du Street Fighter, des jeux Neo Geo, vraiment des jeux ultra dynamiques. Ouais, c'est ça aussi qui nous intéresse. On synthétise tout ça. Je vois David aussi sur tout ce qui est jeux aussi, point and click, les jeux à histoire, etc. On se retrouve vachement là-dedans et voilà, comme le dit Charles, on synthétise tout ça et ça donne Ilios. Alors, c'est très intéressant en salon parce que des fois on nous fait « Ouais, vous avez pris du Castlevania, ouais, vous avez pris du Megaman, ouais, vous avez pris du Guacamelee, ouais. » Bah non, en fait, c'est simplement, je dirais, nos ressentis et on synthétise ça des fois de façon aussi inconsciente, quoi. Ça ressort de cette façon-là.
Et puis les gens, ils trouveront toujours une
toujours,
référence.
Ouais.
Moi qui suis pas autant au point que les potes sur ce qui se fait et ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à Ilios, quand on était au Stunfest, j'ai dû prendre note d'une dizaine de noms. Alors désolé, honte sur moi, mais Muramasa, j'avais jamais vu. Il y en a eu peut-être 50 personnes. Ils ont dit « Mon Dieu, mais c'est du Muramasa !» Et donc, c'est comme quoi, de toute façon, ça évoquera toujours des choses aux gens. Mais nous, on suit notre bonhomme de chemin et puis en espérant que chacun y trouvera des références qui lui plaisent, quoi.
C'est ça, et je dirais la plus belle remarque qu'on a eue au Stunfest, et un des conférenciers qui était venu, on était avec Charles, qui nous fait « Ouah les gars, vous avez fait du Castlevania avec du Saint Seiya en steampunk !» Et c'était vachement marrant en fait, parce que...
Bah t'as tout compris mec, hein, c'est tout.
C'était vachement marrant quoi. Donc, mais avec notre steampunk, on n'est pas dans le steampunk de Order 1886 quoi.
Hein, c'est quoi ce jeu?
Bah, tu vas sur le stand de Sony, tu verras.
Bah, ok, bah, en tout cas, merci. On arrive à 1h30 d'enregistrement. On a bien fait le tour, je pense. Est-ce que Nicolas a des questions en plus?
Non, pas ici. J'en aurais plein, mais ouais. Bon, voilà, on fera voilà. Une deuxième émission.
Tu veux savoir des choses sur l'histoire? Tu veux savoir des choses?
Mais est-ce qu'on peut en parler de l'histoire? Ou pas trop, ou un peu. Parce que on sait, vous en avez un peu parlé en disant que Politesse allait. Enfin, voilà, vous avez vraiment fait le pitch, mais est-ce que...
Vous savez, je dirais quasiment le plus important. Ouais, par rapport au pitch, c'est vraiment de. Enfin, vous l'avez eu, je dirais tout à l'heure, après, vous allez vivre le destin de Politesse et la façon dont il va procéder pour découvrir ce qui se trame derrière. Lui, il a simplement une envie de vengeance, en fait, et il va se rendre compte que ce qu'il voit n'est pas forcément ce qui semble paraître. Donc, les dieux s'amusent beaucoup. Voilà, on va pouvoir dire ça.
Le jeu s'appelle pas juste Ilios, d'ailleurs. C'est juste, c'est Ilios, la trahison des dieux, voilà. Et donc c'est là tout le truc. Alors c'est vrai qu'on, je pense pas qu'on révélera beaucoup plus de l'histoire, parce que il y a quand même,
non, pas de spoil,
beaucoup de choses qui se passent dans ce scénario. Pas de spoil.
Ah, il y a beaucoup de climax et non, le seul truc qu'on peut vous dire, c'est que Politesse aura des choix moraux à faire qui vont pas forcément influencer le déroulement de l'histoire. On n'est pas dans Witcher, parce que sinon, déjà, vu la masse de boulot qu'on a, mais laisse tomber, on n'est pas dingo non plus, quoi. Mais derrière, il y a aussi la volonté que le joueur se pose des questions et soit vraiment emporté par l'histoire. Et voilà. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il va rencontrer des dieux, il va rencontrer des héros et il va se poser plein de questions. Et ça va taper.
Avec des choix moraux, on va Aurora Telltale.
Est-ce qu'il gymarve la gueule ou pas? Oui. Oui ou oui. Appuyez sur X, Y, A, B, ça fait oui. Non, il y a des choses comme ça.
Mais par
ouais.
contre, une chose qu'on peut dire. Une chose qu'on peut dire aussi, ça c'est une volonté propre, je dirais, de game designer, c'est que il y a une chose qu'on a voulu revisiter dans Helios, qui est des fois bien utilisée dans certains jeux et mal utilisée dans plein d'autres jeux, ce sont les QTE. On peut en parler quelques ouais. instants parce que c'est en lien avec l'histoire. Voilà, tout le monde connaît le principe de QTE depuis Shenmue, enfin du moins mm-hmm. j'espère. Et vraiment le principe du QTE qui est si j'appuie sur le bouton ou un des boutons qui est affiché, ça m'emmène vers une réaction différente. Or depuis de nombreuses années, le QTE, et notamment on l'avait vraiment ressenti, enfin moi j'avais vraiment ressenti à l'époque dans Resident Evil 4, t'avais vraiment ce principe où t'as une cinématique et on te fout un QTE. Et si tu le loupes, tu recommences la cinématique. Mais what the fuck ? Mais ça n'a aucun intérêt. Donc on va injecter un faux gameplay pour tenir éveillé le joueur pour pas qu'il s'endorme devant la cinématique de 3 minutes 30 parce que Krauser, pour lui enlever son couteau, il faut appuyer sur le bouton A et si tu te loupes, tu te refais de la cinématique complète, mais c'est débile. Alors que le principe d'un QTE quand même, c'est qu'il y a un choix et tu peux décider ou non de le réussir ou de le rater. Et nous, c'est une des volontés qu'on veut faire dans Helios, c'est que des fois, peut-être, tu dois succomber à ta rage et faire ton QTE ou pas, t'as le choix. Et c'est aussi une des volontés qu'on souhaite faire. Et les QTE, vraiment, comme on voit, ultra story-driven ou ultra scripté, comme on peut voir dans, notamment dans The Order, on a vu quelques trucs, Watch Dogs notamment, ou encore les GTA ou autres, où t'as quelques QTE, ou le pire, je crois que c'est les collages. Bah voilà, c'est. Non, nous, ça nous intéresse pas de faire un faux QTE, quoi.
C'est bien. C'est bien. Je suis d'accord. Alors, Nicolas me dit cette haine contre Watch Dogs. Oui, parce que ce premier truc où, à un moment, tu as le choix de tuer ou pas un mec face à toi, mais tu peux rien faire, t'es obligé de tirer. Et en fait, c'est naze. J'ai trouvé ça vraiment naze. Enfin, ça a aucun intérêt.
C'est du faux QTE.
Ouais, c'est du faux. Ça
t'apprendra à acheter des jeux. Ça t'apprendra à acheter des jeux AAA.
Carrément.
Des jeux à des bons jeux.
Terminé. je sais pas, est-ce que vous avez.
Bah, tu t'es fait watchdogué.
C'est ça. C'est ça. Non, je vais quand même essayer de le finir, difficilement, si j'y arrive. Mais pour l'instant, je nage dans le béton.
Après,
avec
tu
mes
pourras te faire Assassin's Creed Unity et ensuite tu pourras te faire The Division.
Alors,
nickel.
Assassin's
et puis,
Creed,
ensuite,
j'ai arrêté
le,
à partir du
2. Le Rainbow Six Siege.
Et tu pourras jouer à ce mode d'absurdité de 3DS.
Non, j'ai prévu Default terminé sur 3DS.
Très bien.
Quel grand jeu. Mais bon, on n'est pas là pour pas se faire. On va pas continuer sur les différents jeux auxquels on joue parce qu'on va pas finir. Puis moi, j'ai un montage après à faire sur ce podcast-là. Donc, normalement, on devait pas dépasser l'heure, mais là, bon, pas grave, 1h30, ça va le faire. Mais écoutez, messieurs de Aurora Studio. Encore merci d'avoir accepté de participer à notre petit podcast. Et ben en tout cas, on espère grandement que vous allez enfin sortir ce jeu. Et on va suivre votre actualité, en tout cas, et on s'empressera de relayer l'info dès qu'il y a, je sais pas, une sortie d'une démo, par exemple, ou le Kickstarter. Vous inquiétez pas pour ça.
Ah, on n'est pas inquiet, c'est super simple en tout cas.
Merci.
Merci.
C'est comme ça un podcast
ouais,
alors
c'est
ah,
ça.
Ouais.
Voilà, cool. C'est ça.
On discutera jeux vidéo une autre fois sur un même dos, sans enregistrement.
Et bah, on va vous laisser, et puis bah, on se dit à la prochaine fois. Alors, je sais pas, Nico, est-ce que tu avais déjà un sujet dont tu voulais parler?
Non, non, c'était pas un sujet, mais j'y reviendrai une autre fois. Par contre, est-ce qu'on dit déjà ce que les prochains invités prévus, on en parle ou on laisse la surprise?
c'est toi qui balance.
Chaque podcast normalement se fera avec les gens de Radio01.net, ceux qui connaissent et qui aiment tout ce qui est podcast jeux vidéo. Ceux qui écoutent le podcast jeux vidéo doivent connaître ces gens-là, et donc voilà, ils nous feront la gentillesse de venir normalement pour la prochaine émission, qui aura lieu, que je dise plus de bêtises, le 24, dans deux semaines. Oui, c'est ça, le 24.
Exactement. Et bien encore merci à tout le monde, et puis on se dit à la prochaine fois. Ciao.
Merci, bye bye.
Ciao.
Bon courage pour le montage.